Il y a environ 130 versets proposés, donc nous n'allons pas les lire tous, mais nous allons en lire quand même une centaine entre ce matin et cet après-midi. Même si pendant l'étude, évidemment, il pourra être tenu compte de l'ensemble des versets cités. Alors d'abord, en Jean 1, Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 41. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu parler de lui à Jean et qui l'avait suivi. Celui-ci trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui est interprété est Christ. » Et il le mena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, le fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, qui est interprété Pierre. » Luc 5, versets 3 à 11. Montant dans l'une des nacelles qui était à Simon, Jésus le pria de s'éloigner un peu de terre, et s'étant assis, il enseignait les foules de dessus la nacelle. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Mène en pleine eau et lâchez vos filets pour la pêche. » Et Simon, répondant, lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je lâcherai le filet. » Ayant fait cela, ils enfermèrent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre nacelle de venir les aider, et ils vinrent et remplirent les deux nacelles, de sorte qu'elles enfonçaient. Et Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poissons qu'il venait de faire. De même que Jacques et Jean aussi, fils de Zébédée, qui étaient associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, dorénavant tu prendras des hommes. » Et ayant mené les nacelles à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. Marc chapitre 3, versets 13 à 15. Et il monte sur une montagne, et il appelle ceux qu'il voulait. Et ils vinrent à lui. Et il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher, et pour avoir autorité de guérir les maladies et de chasser les démons. Et il surnomma Simon Pierre, et Jacques le fils de Zébédée, et Jean le frère de Jacques, et il les surnomma Boanergès, ce qui est fils de tonnerre. Et André, et Philippe, et Barthélemy, et Matthieu, et Thomas, et Jacques le fils d'Alphée, et Thaddée, et Simon le Cananéen, et Judas Iscariote, qui aussi le livra. Nous passons ensuite à Matthieu 14, versets 24 à 33. Or, la nacelle était déjà au milieu de la mer, battue par les vagues, car le vent était contraire. Et à la quatrième veille de la nuit, il s'en alla vers eux, marchant sur la mer. Et les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés, disant « C'est un fantôme !» Et ils crièrent de peur. Mais Jésus leur parla aussitôt, disant « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur !» Et Pierre, lui répondant, dit « Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Et Pierre, étant descendu de la nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, disant, « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, Jésus, étendant la main, le prit et lui dit, « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la nacelle, le vent tomba. Et ceux qui étaient dans la nacelle vinrent et lui rendirent hommage, disant, « Véritablement, tu es le Fils de Dieu !» On retourne dans Luc, Luc 4, on va lire les versets 38 et 39 de Luc 4. Et s'étant levé, il sortit de la synagogue et entra dans la maison de Simon. Et la belle-mère de Simon était prise d'une grosse fièvre, et on le pria pour elle. Et s'étant penché sur elle, il tensa la fièvre, et la fièvre la quitta. Et à l'instant, s'étant levé, elle les servit. Luc 8. Verset 40 d'abord. Et quand Jésus fut de retour, il arriva que la foule l'accueillit, car tous l'attendaient. Et voici un homme dont le nom était Jaïrus, et il était chef de la synagogue, vint et, se jetant aux pieds de Jésus, le supplia de venir dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ 12 ans, et elle se mourait. Verset 51. Et quand il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer, sinon à Pierre et à Jean et à Jacques, et au père de la jeune fille et à la mère. Et tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Et il leur dit, ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se riaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais lui, les ayant tous mis dehors et l'ayant prise par la main, cria, disant, jeune fille, lève-toi. Et son esprit retourna en elle, et elle se leva immédiatement. Et il commanda qu'on lui donnât à manger. Et ses parents étaient hors d'eux, et il leur enjoignit de ne dire à personne ce qui était arrivé. Matthieu 17, verset 24. Et lorsqu'ils furent venus à Capernaum, les receveurs des 10 drachmes vinrent à Pierre et dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 10 drachmes ?» Il dit, « Oui. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, disant, « Qu'en penses-tu, Simon, les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tributs ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers ?» Pierre lui dit, « Des étrangers. » Jésus lui dit, « Les fils s'en sont donc dispensés. » Mais afin que nous ne les scandalisions pas, va-t'en à la mer, jette un hameçon et prends le premier poisson qui montera. Et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. » Toujours dans Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 17. Or, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils dirent, « Les uns disent Jean le baptiseur, les autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre répondant, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondant, lui dit, « Tu es bienheureux, Simon Barjonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et moi aussi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Verset 21. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il fut ressuscité le troisième jour. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre, disant, « Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Va arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » On peut revenir au chapitre 17, verset 1er, et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean, son frère, et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Et Pierre répondant dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi et une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix de la nuée disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. » Ce que les disciples ayant entendu, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande peur. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous et n'ayez point de peur. » Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul. Pour ce matin, on va s'arrêter là.
Voilà, donc on va commencer l'étude de ce personnage, donc de Pierre, qu'on retrouve beaucoup dans le Nouveau Testament. D'abord, très souvent dans les évangiles, on en a lu quelques versets, souvent associés à Pierre et Jean. Et puis, le souhait que nous avons, c'est de, non pas d'étudier spécialement tous les textes que nous avons lus, mais avec la pensée d'essayer de découvrir dans les versets que nous avons lus comment Pierre, cet homme qui un jour a eu une première rencontre avec le Seigneur Jésus, a été petit à petit formé pour une finalité, donc servir son maître, et écrire en particulier 2 lettres qui sont très, très encourageantes pour les chrétiens d'aujourd'hui. Je voudrais juste commencer par lire deux versets de l'apôtre Paul et après donner encore deux, trois mots d'introduction dans Colossiens. Parce que l'apôtre Paul a beaucoup écrit aussi et il avait un souci. Un souci, en tout cas, c'est un but dans sa vie et on peut le trouver dans le chapitre 1er et au verset 28. Donc Paul qui dit « Le Christ, lequel nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ, à quoi aussi je travaille. » Il veut dire par là qu'il voudrait rendre chacun, chaque homme spirituellement adulte dans sa relation, dans son union avec le Christ, dans le Christ. Et dans le chapitre 2, il nous indique ceci, au chapitre 2, verset 6, comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enraciné et édifié en lui et affermi dans la foi. Selon que vous avez été enseignés, abondante en elle, avec des actions de grâce. En quelque sorte, construisez votre vie sur lui, sur le Christ. Et Pierre est certainement un exemple de cette formation qui a fait de quelqu'un, a fait de lui un homme adulte, un chrétien adulte. Alors, peut-être trois parties dans la vie de Pierre. D'abord une période, évidemment, une rencontre avec le Seigneur, et puis une période de formation. Et ça va être surtout le thème de la journée. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont le petit papier qui donne le plan, on avait intitulé « Pierre, un chrétien en formation continue ». Donc une formation initiale, conversion et appel. Une formation au quotidien, et alors apprendre à connaître le Seigneur, c'est ce que nous avons lu pour ce matin. Et là, on pourra découvrir la grandeur et la puissance du Seigneur, connaître la personne du Seigneur. Et pour cet après-midi, ce sera apprendre à se connaître. Parce que les deux choses vont ensemble. En apprenant à connaître le Seigneur, on apprend à se connaître. Et Pierre est bien bouillant pour son Seigneur. Et voilà, ça l'amène à quelques excès. Peut-être qu'on va se reconnaître dans bien des passages qu'on lira cet après-midi. Puis il y a tout un travail de sanctification du Seigneur pour lui. Et puis, on terminera avec cette formation qui a été utile, pas seulement pour lui, mais aussi pour d'autres. Et si le Seigneur nous forme, c'est aussi pour d'autres. Alors ça, c'est un peu la première partie de la vie de Pierre. La deuxième partie, ce serait une partie publique, puisque donc le Seigneur lui a annoncé qu'il avait lui donné les clés du royaume. Et dans les 10 premiers chapitres du livre des Actes en particulier, on voit beaucoup l'apôtre Pierre faire des discours, on le voit à peu présent partout. Et il va être là un petit peu le déclencheur d'une nouvelle période. Évidemment, l'Esprit de Dieu travaille, mais par son moyen. Et comment, si Dieu, le Seigneur lui avait dit « tu seras pécheur d'homme », eh bien, par toute une activité qu'on trouve dans le début du livre des Actes, on va voir Pierre dans son ministère public. Et puis il y a une troisième partie, peut-être plus cachée, peut-être moins présente sur la scène, mais c'est en particulier dans ces deux lettres qu'il a écrites, où on voit qu'il est là pour la consolidation de ce qu'il a engagé d'une manière publique, hein, consolider les chrétiens dans leur foi, les encourager, parce que il y en a peut-être qui croient que à partir du moment où on est chrétien, tout va tout seul, tout baigne, comme on dit. Eh bien, la réalité n'est pas celle-là, mais il y a des ressources, et Pierre est de cela qui sait nous encourager, comme un berger encourage des brebis, tout un troupeau. Voilà donc l'étude d'aujourd'hui, et qui commence par ce moment de l'évangile de Jean, où quelque chose d'extraordinaire vient de passer. Il y a un homme pas comme les autres, et Jean, appelé Jean le baptiseur, cet homme qui a baptisé déjà bien des personnes annoncent voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle surprise qui est-il ? Et voilà des personnes qui vont être saisies par le message, par la rencontre avec cette personne, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Chose au plan des généralités, donc en rapport avec le sujet, mais c'est d'ailleurs tout le temps la même manière lorsque nous lisons la parole de Dieu, ou lorsque nous la méditons ensemble, eh bien, je peux dire quand même que en matière de formation, si on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien du tout. Et pour cela, on peut lire un verset de la parole de Dieu dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, Jacques 1er, verset 22, « Mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement vous séduisant vous-même. » Et puis un autre verset, c'est une parole du Seigneur Jésus qui nous dit cela dans Jean 13, il nous dit « Si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux si vous les faites. »
Il y a dans la croissance donc cette mise en pratique de la parole, et puis la transmission de la vie. Philippe a parlé de Jean le baptiseur, quand il a vu le Seigneur qui venait vers lui, qui dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Et puis il y a là des disciples de Jean le baptiseur qui voient le Seigneur et qui entendent ce que dit Jean. Parmi ses disciples, il n'y a pas Pierre, mais il y a André, son frère. Et André, ayant suivi le Seigneur, au verset 35, il se lève avec un autre et il suit le Seigneur. Le Seigneur se tourne vers lui et lui dit « Que cherchez-vous ? Quel est votre but ?» Il ne lui a pas dit « Qui cherchez-vous ?» mais « Que cherchez-vous ? Quel est ton but ?» Et puis, la réponse des deux disciples, c'est « Où demeures-tu ?» Leur but, c'est voir où est Jésus, être avec lui. Et la réponse du Seigneur, c'est « Venez, voyez, il les prend. » André a découvert celui qui, au fond, celui qui l'attendait. Il a découvert quelqu'un qui était celui qui était son espoir, bien qu'il connaisse peu de choses de lui. Il a passé un jour avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait aussitôt ? Il va chercher son frère. Il a reçu quelque chose du Seigneur. Il a découvert quelque chose du Seigneur. Immédiatement, il va le transmettre. Et ce que nous pouvons recevoir du Seigneur, la vie que nous recevons du Seigneur, la parole de Dieu que nous pouvons recevoir est une parole vivante et la vie se transmet. Et la première chose que fait André, c'est transmettre. Et Pierre, il me semble, il est là un peu comme quelqu'un qui écoute, qui va écouter son frère. Il le suit, il va vers le Seigneur. Et si André lui a parlé du Seigneur, rien ne remplace pour Pierre la rencontre personnelle avec le Seigneur. Et cette rencontre personnelle avec le Seigneur va être très surprenante. Je ne sais pas si vous rencontriez quelqu'un pour la première fois et que cette personne vous dise « Je vais changer ton nom, je vais te donner un nouveau nom », on serait un peu surpris. Et là, le Seigneur Jésus dit à Pierre, je te donne un nouveau nom. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Est-ce que ça ne veut pas dire, Pierre, tu m'appartiens. Je te veux pour moi. Et c'est là la première étape de Pierre. Il y en a peut-être eu une avant, mais on reverra tout à l'heure, quand il y a eu la guérison de sa belle-mère, il a vu le Seigneur agir sur quelqu'un d'autre. Mais là, il va rencontrer quelqu'un qui va tout changer dans sa vie.
Nous devons bien convenir que Pierre est un personnage hors du commun. Dans le Nouveau Testament, son nom est cité 235 fois. Deux fois sous son appellation ancienne, en araméen, Shimeon, dont le nom signifie « celui qui écoute ». Il était donc déjà prédestiné à écouter, ce qui est admirable. Les évangélistes ont repris la formule grecque « Simon, Simon » neuf fois. Deux fois « Shimeon », neuf fois « Simon », 50 fois il est appelé « Céphas », 155 fois « Pierre » et 19 fois l'association « Simon-Pierre ». C'est donc un personnage hors du commun. Socialement parlant, il est intéressant parce que nous savons qu'il était marié. Dans l'évangile de Marc, il est question de la guérison de sa belle-mère qui était fiévreuse. Et lorsque Paul écrit aux Corinthiens, dans sa première épître, au chapitre 9, il rappelle que Simon-Pierre, Céphas, voyageait avec sa propre épouse. Ce qui est intéressant parce que nous comprenons mieux les nombreuses exhortations des relations à l'intérieur du couple, mari et femme, que nous trouvons dans les épîtres de Pierre. Il était donc très qualifié pour parler de ce thème-là. Et puis lorsque Jésus le voit, probablement que Jésus dénote en lui un caractère fort, un meneur d'hommes. Et c'est bien pour cela qu'au niveau de sa formation initiale, Jésus de prime abord, comme vient de le rappeler Jean-Luc, va changer son nom de but en blanc. Tu seras appelé Céphas, ce qui, interprété, est Pierre. Ce que nous pouvons encore souligner, c'est que la formation de Pierre, elle est graduelle. Tout d'abord, c'est André qui l'amène face à Jésus. Et nous sommes surpris de ce que Pierre, qui a la langue si facile, à cette occasion-là, il se tait. Il ne dit rien du tout. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, il est en face du Fils de Dieu, mais il est tellement surpris de la transformation du nom qui lui est offerte que Pierre se tait. Il se laisse déjà façonner par le Maître. À la deuxième occasion, dans l'évangile de Luc, c'est la pêche miraculeuse que nous avons lue ensemble, là, Pierre voit le Maître à l'œuvre. Il est capable de parler à un banc de poissons. Première pêche miraculeuse. Il est obligé devant le Maître de reconnaître son état de pêcheur. Retire-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. C'est la voie que nous devons chacun, chacune suivre lorsque nous venons au Seigneur. D'abord dans la repentance, d'abord dans la confession. Mais Pierre ne parle pas beaucoup plus. Et le Seigneur de lui annoncer « Mais tu prendras des hommes plus tard. » Et puis à la troisième occasion, troisième étape de la formation de Pierre, dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, encore une fois, la pêche est terminée, il est là en train de laver les filets, et là Jésus va beaucoup plus loin. « Suivez-moi. » Dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, le verset 16, « Venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Alors là, il faut prendre ses responsabilités. Si tout d'abord Pierre a vu le Seigneur en se taisant, si dans une seconde étape, il a vu le Seigneur agir en dirigeant un banc de poissons dans ses filets, ici, il est mis au pied du mur, « Venez après moi. » Et chose remarquable, il est ajouté, « Et aussitôt, ayant quitté leur filet, ils le suivirent. » Et la formation va se poursuivre. Nous tournons une page au chapitre 3, nous l'avons lu, Jésus monte sur une haute montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Mais après une longue nuit de prière, nous rappelle l'évangéliste Luc, et parmi ceux qu'il appelle, les 12 qu'il établit, le premier qui est cité, c'est Pierre. Et il est remarquable que dans le Nouveau Testament, nous ayons 4 listes des disciples de Jésus. dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et au début du livre des Actes. Et chaque fois, Pierre est cité en premier lieu. Pierre avait donc probablement au niveau de groupe une certaine autorité qui lui permet d'être cité chaque fois en premier lieu. Mais être cité en premier lieu, c'était pourquoi ? Marc chapitre 3, le verset 14e, il en établit 12, pour être avec lui. C'est la condition première, c'est la condition essentielle. On ne peut pas servir le maître si on n'est pas d'abord avec lui. On ne peut rien donner si nous n'avons rien reçu d'abord. Et c'est pour cela que nous sommes ici réunis aujourd'hui. Si nous voulons parler de Christ, si nous voulons parler de notre maître, il faut d'abord être avec lui, il faut d'abord être à l'écoute de sa parole. Et nous revenons au point de départ, en araméen, Shimeon, celui qui écoute.
Jean-Luc a dit que le changement de nom est un marque d'autorité, c'est confirmé dans le livre de la Genèse. C'est l'Éternel qui change le nom de Jacob en Israël, tu es à moi. C'est le Pharaon qui change le nom de Joseph en Tsaphnapanéach. C'est Nebuchadnezzar qui change le nom de Daniel en Belteshazzar. Donc, changement de nom, tu es à moi. Et alors, on peut penser que le futur, dans Jean 1, « tu seras appelé Céphas » peut aussi vouloir dire « oui, tu es à moi », mais il y a quelque chose de progressif. Et ce nom de Pierre va lui être confirmé. Alors, il est confirmé dans ce qu'on a lu en Marc 3, quand il choisit les disciples pour être avec lui, et Simon, il le surnomme à Pierre, donc on a bien là au début du ministère. Et puis on a une confirmation dans ce qu'a lu aussi, dans ce qu'on a lu dans Matthieu 16, au moment de la déclaration « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Donc il l'appelle bien Simon Barjonas, et après il lui dit « Tu es Pierre ». Donc cette confirmation, ce côté progressif, est également peut-être déjà un peu en filigrane dans le « Tu seras ». Première rencontre, tu vas être à moi. Et puis je t'annonce quelque chose, c'est que je vais te former, je vais te transformer, tu vas devenir cette pierre vivante dont tu seras empreint aussi ensuite dans ton enseignement, puisqu'on retrouvera la pierre vivante dans l'épître de Pierre.
Le changement de nom, la marque d'une autorité. Mais en même temps, vis-à-vis de celui dont le nom est changé, c'est une identité qui change. Et trop souvent, le changement de nom est lié soit à une identité qui change, soit à une mission qui est confiée. On trouve les deux dans Pierre. Et il était Simeon. En parenthèse, la première parole du Seigneur, c'est « Tu es Simon ». Avant même qu'il ne se présente devant le Seigneur le connaît parfaitement, il sait qui il est. C'est la même chose qu'on trouve quand il peut dire à Nathanaël, à la fin, « Voici un vrai Israélite, il le connaît parfaitement ». Je me rappelle le psaume 139. La deuxième chose aussi, c'est que le Seigneur connaît son caractère, ce qu'il est, et c'est encourageant de voir que le Seigneur connaît parfaitement tout ce qu'il sera nécessaire pour être formé. Et quand nous disons cela, nous parlons de la patience du Seigneur. Il connaît parfaitement son caractère, mais lui, il sait le travail qu'il a à faire pour le former pour ceux pour lequel il désire l'employer.
Petite précision, lorsque Nebuchadnezzar change les noms de Daniel et de ses amis, son intention c'est de faire disparaître leur véritable identité dans la foi. En fait, il n'y arrive pas, la foi se manifeste et les chapitres suivants l'expriment d'une manière extrêmement claire, forte, puissante, efficace. Lorsque le Seigneur Jésus change le nom, c'est dans la foi, pour ouvrir une formation, pour faire entrer dans un service. Est-ce que nous avons envie véritablement d'être avec le Seigneur et de l'entendre d'une certaine manière, nous dire quelque chose qui nous donne une véritable identité dans la foi dont lui est la source, une identité qui nous porte un service pour sa gloire et pour le bien de tous ceux que nous rencontrons en chemin.
C'était donc la première rencontre. Il est resté bouche fermée, comme on l'a dit. Et puis, cette rencontre a eu lieu plutôt près de Jérusalem, en tout cas pas très loin de là où Jean baptisait, semble-t-il. Et on voit le Seigneur remonter en Galilée, et puis on se retrouve dans Luc 5 en Galilée, au bord du lac. Le Seigneur a déjà commencé son ministère, puisque la foule veut absolument l'entendre. La foule se jetait sur lui pour l'entendre. C'est beau, ça. Et alors, Pierre est là avec ses associés. Il y a deux nacelles. Ils lavaient leur filet. Il faut beaucoup de persévérance, quand même, pour laver un filet quand on a déjà passé toute la nuit sans rien pêcher. Pour dire, eh bien, j'ai passé une nuit d'échec. Et qu'est-ce que je fais le matin? Eh bien, je relave mon filet pour repartir. Quelque part, il y a beaucoup de pêcheurs de poissons dans les disciples, sûrement parce que le métier de pêcheur de poissons, c'est un métier où on n'abandonne pas, où on ne lâche pas, où on est persévérant, où on est patient, travailleur, travail d'équipe. Enfin, il y a sûrement plein de développement. Et là, ce qui est extraordinaire dans la façon dont le Seigneur va faire la deuxième étape dans la vie de Pierre, c'est la façon dont il s'installe sur son bateau, d'abord pour être bien entendu par la foule, côté très communicateur, très pratique du Seigneur, pour être bien entendu. Et puis aussi, au passage, eh bien, il y a un auditoire captif, c'est Pierre, qui est assis dans le bateau. Et il va entendre lui aussi. On imagine la scène, n'est-ce pas, cette foule qui se jette sur le Seigneur pour l'entendre, et puis lui, il continue à laver son filet, hein, un peu comme... Oui, il y a eu le premier contact, mais il n'y a pas encore eu la décision complète. Et puis oui, il y a le Seigneur, il y a toute la foule. Pour moi, je continue mon filet. Non, Pierre, maintenant tu vas dans le bateau, puis on va ensemble, et puis tu vas commencer par t'asseoir et tu vas écouter. Et il est le premier, aux premières loges, pour écouter. Et puis après, ça va aller plus loin, et au passage, on peut déjà dire que sa pêche miraculeuse, c'est aussi le fruit de plusieurs étapes d'obéissance. Il obéit une première fois en prenant le Seigneur, et puis après mène en pleine eau, deuxième petit pas, et puis après jette le filet. Et on verra que le succès, le fait de réussir cette pêche miraculeuse, ce grand acte au fond de miracle du Seigneur, eh bien c'est aussi la conséquence de plusieurs petits pas d'obéissance.
Pris dans la nacelle avec toute la foule autour. Parfois, quand on est là dans une réunion comme maintenant, ça vous est jamais arrivé qu'on a l'impression tout d'un coup que c'est à moi que le Seigneur parle. Et on oublie que les autres, il m'a pris un peu à part, il m'a pris là pour me parler. Et tout à l'heure, on a prié pour les enfants ici. Alors je suis sûr que... Je suis sûr, j'en sais rien, tout compte fait. Mais, la plupart des enfants qui sont là sont venus parce que les parents sont venus. Et si on vous avait proposé d'aller vous promener sur l'île de Ré, peut-être avec le choix, vous auriez peut-être choisi l'île de Ré. Bien, le Seigneur nous a amenés tous ici, petits et grands. Et il y a peut-être une barque, une nacelle. Nous sommes les uns les autres comme chacun dans une nacelle avec lui, pour écouter. Le Seigneur veut me parler aujourd'hui. Il veut te parler aujourd'hui, comme il avait voulu parler à Pierre. Il a pris, viens, j'ai besoin de ta barque. Il y en avait tout plein d'autres. Hein. Non, il a pris celle de Pierre. Et si j'ose dire les choses comme ça, Pierre, il est coincé. Il est bien obligé d'écouter.
rôle de parent ou notre rôle de moniteur de camp biblique, c'est un peu le rôle d'André. Et je continue à m'adresser aux enfants. Qu'a fait André ? Il a amené son frère au Seigneur Jésus. Eh bien, chers enfants, vos parents, vos grands frères, vos grandes sœurs ont le même rôle. C'est de vous amener à la réunion pendant une heure ou deux ou une journée comme aujourd'hui pour que vous entendiez parler du Seigneur Jésus. Et puis, dans un second temps, le Seigneur va peut-être plus précisément s'adresser à vous et vous faire réfléchir sur ce qu'il est, ce que vous êtes, ce qu'il attend de vous, avec des petites questions, avec des petits événements. La pêche miraculeuse de Luc 5, ce sont des événements qui se produisent dans votre propre famille, lorsque vous entendez votre papa ou votre maman dire « Ah, grâce à Dieu, j'ai obtenu ceci », ou « Une telle sœur à la Réunion est guérie parce qu'on a beaucoup prié pour elle ». Ce sont les miracles quotidiens que Dieu permet dans sa grâce infinie parce qu'on fait confiance au Seigneur Jésus et vous entendez parler de ces choses. Vous êtes près du Seigneur Jésus, il vous voit, il vous parle. Mais vous ne vous êtes peut-être pas encore engagé totalement. Et puis, qu'a fait Pierre au début de l'évangile de Marc, alors qu'il a été témoin de la pêche miraculeuse? Il est sur le lac de Galilée en train de jeter le filet. Il n'avait pas encore compris qu'il devait tout abandonner pour suivre le Seigneur. Et viendra un jour, chers enfants, où, quel que soit votre jeune âge, il faudra entendre le Seigneur vous dire « Venez après moi ». Prendre une décision, comme Jésus le répétera d'ailleurs à Pierre à la fin de l'évangile de Jean, chapitre 21, « Toi, suis-moi ». Et c'est peut-être aujourd'hui qu'après avoir suivi vos parents à la Réunion, après avoir entendu parler du Seigneur Jésus et probablement déjà de connaître pas mal de versets bibliques par cœur et de cantiques par cœur, il faut que le Seigneur entre plus profondément encore dans votre cœur et que vous lui offriez votre cœur et votre vie. Réfléchissez-y. Le Seigneur vient encore vous dire aujourd'hui, comme il l'a dit à chacun de nous un jour, « Venez après moi ».
Dans ce récit de Luc 5, le Seigneur dit à Pierre, après s'être adressé aux foules et les avoir enseignés selon les nécessités de tous ceux qui étaient présents, « Mène en pleine eau et lâchez vos filets ». Ça peut être surprenant pour Pierre qui a de l'expérience. Que répond-il ? Qui est déjà pour lui le Seigneur ? Quelqu'un qui a de l'autorité, dont la parole est la vérité, qui mérite d'être écouté, ou quelqu'un à qui on peut dire « Mais enfin, nous avons de l'expérience, nous n'avons rien pris, nous lavons les filets pour un autre moment, pas pour tout de suite ». Et la réponse de Pierre exprime bien que cette expérience et son passé passent rapidement devant lui. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je lâcherai le filet ». L'invitation dont vient de parler Pierre Blond, à l'instant, c'est bien celle-ci. « Écoute-moi, dit le Seigneur Jésus. Écoute ce que je te dis, suis ce que je te dis. Sur ta parole, je lâcherai le filet. » Et ensuite, c'est la récompense. Le Seigneur savait ce qu'il exprimait. Pierre constate que sa parole est une parole vraie, efficace, qui porte du fruit quand on l'écoute et quand on met en pratique ce qu'il invite à faire. Il y a une réponse qui est une réponse divine, qui dépasse toute expérience et toute imagination d'homme.
Ce passage, la première réaction de Pierre, c'est d'écouter la parole du Seigneur. La parole du Seigneur a de la valeur pour lui. Et le Seigneur va agir. Il va avoir la pêche miraculeuse, il va découvrir la puissance du Seigneur. Et puis là, ayant découvert la puissance du Seigneur, il va se trouver devant la personne du Seigneur. Au départ, il avait dit « Maître, celui qui est au-dessus des autres ». Quand il découvre réellement qui est celui qui est là, avec lui, dans sa barque, il va dire « Seigneur ». Et il va découvrir dans sa présence ce qu'il est lui-même, un homme pécheur. Pas. Et encore une autre étape, c'est promesse du Seigneur. Je te ferai pécheur d'homme. La parole, la personne, la grâce du Seigneur et ses promesses. Autant d'étapes que nous avons chacun, j'espère, ici, connues dans notre vie.
Peut-être une petite précision encore. Lorsque le Seigneur parle, qu'on l'écoute et que ce qu'il a exprimé dans sa réalisation rend compte de sa puissance, de sa grandeur, nous sommes vidés de nous-mêmes. Il est bon de rencontrer le Seigneur pour prendre conscience de ce que nous sommes. Et c'est après seulement que Pierre peut être propre au service. Alors pour ceux qui peuvent déjà comprendre ce qui peut être un petit peu difficile pour les enfants, il faut cette rencontre personnelle avec le Seigneur qui met en évidence ce que nous sommes et qui le met de côté, pour que le travail de Dieu puisse se faire en nous et que nous entrions dans un service qui va être utile et bienfaisant, pour nous-mêmes bien sûr, mais pour beaucoup d'autres.
Donc, Pierre entendu, tu seras appelé Céphas. Tu m'appartiens en tant que personne. Hey, tu vas prendre cela. Et puis dans Luc, on voit que ce n'est pas seulement moi, Pierre, que le Seigneur veut, mais c'est aussi ma barque, mon matériel pour travailler.